Pour la chronique environnement, je reçois aujourd'hui Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au Cobali, un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. On commence à arriver au printemps et on va parler entre autres des crues et de l'espace de liberté des cours d'eau. L'espace de liberté des cours d'eau. C'est intriguant, c'est quoi ça, Pierre-Étienne? Salut!
Salut! Oui, l'espace de liberté, concept de plus en plus étudié, surtout dans le milieu universitaire. En fait, l'espace de liberté, c'est de considérer que sur le territoire, un cours d'eau, c'est dynamique.
Okay.
Donc, il va y avoir à la fois, pour le cours d'eau, un espace de mobilité. Donc, son tracé va bouger dans le temps, avec les années. Et aussi, le cours d'eau va avoir un espace d'inondabilité.
OK. Donc, l'inondabilité n'est pas la mobilité, dans le sens que ce qui va déborder, c'est pas ce qui est nécessairement mobile. C'est pas ça qu'on parle.
C'est ça. Okay. En fait, c'est l'espace que le cours d'eau va naturellement inonder. Là,
OK.
En gros, sa plaine inondable, qu'on appelle. Là.
OK. Le dessin que le cours d'eau va faire, lui, il va changer dans le temps.
Ouais.
OK. Aussi. Excellent. Puis, peux-tu nous expliquer justement comment ça se déplace, un cours d'eau? Parce qu'on s'entend que ça doit se faire lentement.
Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, mais quand même, ça peut être relativement rapide. Ça dépend de plusieurs facteurs. En gros, on le sait, l'eau, c'est très, très fort. Hein?
Ouais.
Fait que quand la rivière arrive dans une courbe, qu'on appelle un méandre, la rivière va naturellement aller éroder, donc arracher du sol là, du côté extérieur de la courbe, donc du côté le plus...
Elle va ouvrir la courbe un peu, là.
Oui, c'est ça.
Okay.
Fait que où est-ce que la rivière frappe? Elle va aller gruger la rive, puis amener les sédiments, donc la terre qu'elle a grugée, elle va amener ça plus loin.
OK.
Donc, puis là, dans le fond, de l'autre côté, donc du côté intérieur de la courbe, là, le plus rapide, c'est l'inverse, l'eau a moins de vitesse. Fait que c'est une place où d'habitude le sol va se déposer.
Donc, sur le bord de la courbe à l'intérieur, le fond pourrait être un peu plus haut parce que les dépôts se sont déposés là, mais du côté extérieur de la courbe, là, ça fly, puis là, les dépôts, ils restent pas et puis ils continuent leur chemin.
C'est ça. Okay. Du côté intérieur de la courbe, souvent, on va avoir une plage dans nos régions. Là, si vous regardez les
oui, c'est ça. Il y en a une à Rivière Rouge qui me vient en tête, comme tu dis.
Exact. Fait qu'il va y avoir une plage qui va se faire là. Puis donc, la rivière, elle va finir par bouger avec les années. Fait que le méandre va se déplacer avec le temps. Puis souvent, même quand on arrive avec des têtes d'épingle, des méandres très, très serrés,
ouais.
Des fois, le cours d'eau, il va passer tout droit. Pendant une grosse crue, quand il y a beaucoup de force, là,
il va se faire un raccourci.
C'est ça. Puis là, l'ancien méandre devient abandonné. Là, c'est ce qu'on appelle un bras mort.
OK.
Ça laisse un milieu humide super intéressant, mais la rivière passe plus là.
OK. Fait qu'en général, un cours d'eau, il est mobile à certains endroits, mais peu mobile à d'autres. Ça dépend de la force puis de la vitesse de l'eau, c'est ça?
Oui, puis ça dépend du sol aussi beaucoup. On comprend qu'une rivière qui passe dans un canyon en roche, ça va migrer pas mal moins vite que si on est dans un terrain assez plat.
Ça va gruger, mais moins vite.
C'est ça.
Okay.
Dans le fond, si on a des dépôts vraiment meubles, comme du sable, bonjour les serpentins, là, la rivière va faire des formes vraiment élaborées.
Ça. OK. Puis, y a-tu des endroits où on peut voir des belles images, des images aériennes de ça? Parce que c'est sûr que, vu du sol, des fois, c'est plus difficile, mais les fameux serpents, là, comme tu dis, là, est-ce qu'on en a, nous autres, dans la région ici?
Oui, on en a pas mal. Des bons secteurs à regarder, là, la rivière Kémika, juste au nord du lac des Écorces. Il y a aussi la Lièvre au nord de Mont-Saint-Michel. Ou la Rouge, quasiment dans toute la MRC, là, entre autres à l'Ascension. Là, c'est vraiment impressionnant, là, les méandres que les rivières forment dans ces coins-là.
Puis pour l'espace d'inondabilité, on sait que les cours d'eau ont des crues, puis qui sortent de leur lit. C'est naturel, mais on n'a pas toujours tenu compte, de quand ça arrive, puis quand on construit nos maisons. On l'a vu avec les problèmes d'inondation des grandes crues de ces dernières années. Qu'est-ce qui va influencer, justement, la taille d'une crue? Qu'est-ce qui fait que d'une année à l'autre, ça peut changer, puis c'est pas pareil?
Oui, prédire la grosseur d'une crue, c'est assez complexe. Évidemment, il y a la quantité de neige là, qui est disponible.
Oui, ça, c'est sûr.
Mais encore là, c'est un peu compliqué là, parce qu'il peut y avoir neigé beaucoup durant un hiver. Mais ce qui est important, c'est la quantité d'eau réelle qui est dans la neige.
Je te suis. Je te suis, je comprends pas trop. Donc, la quantité réelle d'eau dans la neige, elle peut varier.
Oui, c'est ça, parce qu'on sait que de la poudreuse, exemple, ça peut faire un gros couvert de neige, mais quand ça fond, en réalité, ça ne génère pas beaucoup d'eau.
Okay.
Comparé à de la grosse neige mouillée, là, la neige à bonhomme de neige, là, ça, pour la même épaisseur, ça contient beaucoup plus d'eau.
OK.
Fait que ça, c'est à tenir en compte. Puis là, pendant la fonte, ben, il y a la température générale, la température ambiante, mais il y a aussi l'ensoleillement qui compte pour beaucoup. Des fois, la neige, elle va pas fondre, en fait, elle va directement s'évaporer. À cause du soleil qui frappe. Puis ça dépend aussi du sol à ce moment-là, pour une journée donnée. Si le sol il est gelé, ben, il absorbe rien, puis l'eau, elle ruisselle plus. Elle va pas s'infiltrer dans le sol.
OK, je comprends.
Fait que, puis évidemment, ben, s'il y a des grosses pluies qui s'additionnent à tout ça, c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Puis après ça, ben, il y a aussi la glace, qui est super importante. La glace peut former des embâcles, donc des barrages qui vont comme refouler l'eau. Et le poids de la glace aussi, on y pense pas, là, mais ça fait toute une pression ça, sur les cours d'eau, puis ça pousse l'eau vers l'extérieur, donc vers les rives.
Ah, vraiment à l'image d'un glaçon dans un verre, là, littéralement. Là. On le met dedans, puis ça pousse vraiment ses côtés. Fait que les côtés des cours d'eau sont comme débordés par le poids de la glace.
C'est ça.
J'aurais
quand
jamais pensé à ça.
Quand la glace s'en va, ben, oups, le cours d'eau, il revient un peu plus dans son lit parce qu'il n'y a pas le poids de la glace.
OK.
Un phénomène aussi là, que j'appelle un peu la respiration des cours d'eau, là, c'est qu'en général, ben, ça fond le jour, mais la nuit, il fait froid, donc ça fond moins. Fait que le débit des cours d'eau est comme en décalage. Fait que, d'habitude, on va voir qu'il se gonfle durant la nuit parce qu'il recueille toute l'eau qu'il y a eu durant la journée.
Fait que ce qui fond le jour va remplir la nuit, puis la nuit... Ben, il n'y a pas de fonte, fait que de jour, on perçoit moins que ça gonfle. C'est un peu ça?
C'est contre-intuitif, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait s'imaginer. Okay. Puis c'est aussi, c'est ça qui explique, en fait, malheureusement, que souvent le pire des inondations là, pour les gens, mais ben, ça a lieu aux petites heures du matin.
Lorsqu'on dort, justement, puis qu'on a... Puis les barrages dans tout ça, justement. Tantôt, on parlait des embâcles qui peuvent... Bon, ça, je suis un peu flabbergasté, là, comme on dit, qu'il y a des embâcles de glace peuvent... créer des barrages en quelque part, donc empêcher l'eau de passer. Puis il y a les barrages qu'on a créés aussi là, pour réguler ça. Comment ça fonctionne en fait, ces barrages-là? Je ne parle pas des méga barrages hydroélectriques, là, mais de ceux qui régulent les crues.
Oui, ben dans le fond, pour un peu tempérer là, la variation des cours d'eau là, qui varie beaucoup au cours de l'année, ben on a créé des barrages à peu près partout sur notre territoire.
Okay.
Le principe d'habitude, c'est de retenir une certaine quantité d'eau de la crue sécuritairement, si on veut, dans un réservoir ou un genre de lac-réservoir là,
okay.
qui est prévu en gros pour pouvoir recevoir de l'eau sans que ça soit problématique, mais qui va empêcher justement le gros de l'eau de s'en aller plus bas où ça pourrait causer une inondation.
OK.
Là, ben, en même temps, mais ça crée une réserve d'eau. Qu'on va pouvoir utiliser durant l'été. Quand on manque d'eau, ben là, on va en avoir gardé durant la crue, fait qu'on peut l'utiliser plus tard durant l'été. Mais bon, il y a toujours une limite là, à ce qu'un réservoir peut emmagasiner. Là. Souvent, ça correspond juste à une petite partie là, de toute l'eau d'une crue. Donc,
fait que le barrage, il sert à réguler, mais il n'est pas nécessairement là pour accumuler la quantité d'eau qu'on aura besoin dans l'année. Parce que la fonte du printemps, elle va être passée probablement dans l'été, puis après ça, ben c'est la recharge naturelle du cours d'eau qui va remplacer ça, si on peut dire.
C'est ça, principalement. Mais ça aide quand même à temporiser, disons, dans le temps. Mais c'est pas... ça règle pas tout, là,
okay.
d'avoir un barrage.
Ben déjà, on en a beaucoup appris sur les déplacements de l'eau, puis il y a un truc que t'as parlé tantôt, c'est l'espace de liberté des cours d'eau. Fait que je comprends un petit peu plus dans l'espace de liberté du cours d'eau, c'est dans le sens que tu parlais des méandres tantôt qu'on peut aller voir, entre autres la rivière Kamika au nord du lac des Écorces, la Lièvre au nord de Mont-Saint-Michel ou la Rouge. Si on va sur Google Maps, on peut voir avec les images aériennes ces fameux serpents-là, où c'est ce qu'on appelle les méandres, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Fait que les courbes, puis on peut voir à quel point ça se déplace. Puis est-ce qu'il y a des cartes où on peut voir ça dans le temps? Ben, genre... les vieilles rivières, où elles étaient situées dans le temps, puis maintenant, où est-ce qu'elles sont situées? Est-ce que les scientifiques vont tenir un registre, mettons, du déplacement des rivières, ou c'est quelque chose qui s'aperçoit lentement dans le temps?
Ben, si ça existe, ça va certainement exister, mais en tout cas, j'aimerais ça l'avoir, là, parce que là, pour l'instant, il faut faire des recherches d'année en année, là, mais ça serait le fun d'avoir une vidéo que tu vois l'évolution
ouais, en effet.
Avec les années. Là,
parce que c'est un phénomène qui se passe sous nos yeux, mais à un temps trop lent pour qu'on puisse en prendre conscience. Ben merci, Pierre-Étienne. C'était, pour ceux qui le connaissent pas, ben il est un récurrent à l'émission. C'est Pierre-Étienne Drolet qui est biologiste, coordonnateur de projet au COBALI. C'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Hey, merci beaucoup d'être venu encore une fois nous expliquer la science.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
Salut, bonne journée.